Alors, si nous sommes aujourd'hui à un moment où la question d'une... Je vais quand même attendre. Je vais faire comme dans mes cours à la fac, j'attends le silence, tu sais. Voilà. Si nous sommes à un moment où une des questions qui se pose est celle de la dématérialisation du livre électronique, en même temps, ces mêmes moyens qui permettent d'arriver à cela s'accompagnent de moyens de reproduction, de techniques d'édition assistée, etc., qui permettent disposer de petits tirages, c'est-à-dire que on est capable aujourd'hui, à nouveau, sans que ce soit des tirages de livres d'art extrêmement coûteux, comme ça pouvait se concevoir il y a 30, 40 ans, ou des tirages minimaux de 3 ou 4 000 exemplaires, d'avoir des tirages complètement sur mesure, même de quelques dizaines d'exemplaires. Et ça a permis de voir apparaître ce qu'on appelle aujourd'hui de la micro-édition ou la petite édition, on ne va pas chipoter sur les noms, et dans cette salle, vous êtes réunis, et ben on a une table ronde avec un certain nombre de praticiens ou d'ex-praticiens de cela, mais c'est important que tu nous expliques aussi cela. Et on a même, enfin on a aussi des auteurs, on a même, tout à l'heure, on avait un représentant ici, des spoliés de la micro-édition, mais qu'on a renvoyé dans la salle, puisqu'il ne nous laissait pas sa bière. Voilà. Alors on va commencer par un tour de table, rapidement, pour rappeler qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous le faites aussi. On va commencer, par le bout, par toi, Jérôme.
Donc Jérôme Beau, édition Édition Armada. Pourquoi je fais ça? D'une part, parce que le milieu de l'ASF est un milieu que je connais depuis longtemps. C'est un milieu que j'apprécie. Et suite à différentes discussions ou autres, j'ai vu qu'il y avait pas mal de bons romans qui n'arrivaient pas à être ou réédités ou voire même carrément édités parce que ça n'intéressait pas les maisons d'édition classiques. Et donc c'est là où j'ai eu l'envie de me lancer là-dedans et d'éditer donc ces romans-là.
D'accord, donc le fait de voir des textes qui restent en déshérence.
Bons qui restent, qui ne sont pas publiés.
Merci, Frédéric.
Donc, Frédéric Zinlinder. Donc, moi, ma démarche est un petit peu différente de celle de Jérôme. Donc, les éditions, c'est les éditions Nostradamus, qui, à la base, sont une toute petite structure associative qui a eu pour première vocation de m'abriter en tant qu'auto-édité derrière une enseigne et de proposer la même solution à des auteurs qui étaient en galère comme moi pour trouver un moyen de diffuser leurs œuvres. Voilà.
Isabelle.
Alors Isabelle Marin des éditions Les Nets Scripteurs. Ma démarche à moi, c'est de m'intéresser aux nouveaux auteurs, aux jeunes auteurs, parce que un petit peu comme pour Jérôme, bien qu'on soit sur des lignes différentes, ce sont des auteurs qui n'intéressent pas les maisons classiques puisqu'il y a une grosse prise de risque d'une part. Et d'autre part, beaucoup de travail en amont, beaucoup de travail éditorial, parce que quand on a un auteur qui a 20 ans et qui écrit bien souvent depuis l'adolescence, donc ce sont des gens qui ont une pratique d'écriture, notamment depuis l'explosion d'Internet, sur les blogs, etc. Les jeunes, maintenant, osent écrire et montrer leurs écrits. Bien sûr, il y a du travail à faire derrière avant d'aboutir à une publication. Et c'est ce travail-là qui m'a intéressée.
Et là, on va revenir dessus, le travail qu'il y a à faire derrière et en amont et en aval de l'opération d'impression qui n'est pas de l'édition, même si un certain nombre de personnes ont pu croire à un moment que ça se limitait à ça. On continue avec Xavier.
Donc moi, c'est Xavier Delot. Je suis éditeur donc des éditions Ad Astra. C'est une maison d'édition que j'ai montée à un moment donné où j'étais au chômage, en fait. Hein. Je venais de quitter une librairie, une grande librairie rennaise, normalement pour aller chez Dargo, mais ça n'a pas marché. Voilà. Et j'ai monté avec mon frère parce que c'est vrai que, bon, depuis que je suis adolescent et que je lis de la SF, que je lis de la littérature tout court, toutes les facettes du livre m'ont toujours passionné. Et c'est vrai que l'édition était parmi, parmi ses passions, et j'avais vraiment envie de, eh ben, de tâter la bête, entre guillemets, quoi, voilà, et de voir ce que ça pouvait donner. Donc j'avais déjà publié, comme Jérôme d'ailleurs, hein, un fanzine ou deux dans les années, à la fin des années 90 et au début des années 2000, et j'avais envie vraiment d'y revenir, mais d'une façon plus professionnelle. Et donc, Dastra s'est imposé et ça continue toujours, hein, voilà, pour l'instant en tout cas.
Et ça continue pas toujours. Donc toi, tu as commencé et tu t'es arrêté.
Pendant 5 ans.
C'est pas bon.
J'ai bien aidé quand même.
On avait répété.
Donc je suis parti d'une expérience d'auto-édition au départ. Parce que j'écris, j'avais un manuscrit qui n'avait pas trouvé éditeur, mais à mon avis pour des mauvaises raisons. Donc d'où la tentation d'éditer, mais de faire vraiment le travail d'éditeur. C'est-à-dire que, en fait, il y a eu ce roman, puis en même temps, j'ai découvert que ça m'amusait, que ça me, c'est un travail qui est très agréable d'être en relation avec des auteurs, de parler, de discuter. J'ai fait ça pendant 5 ans. C'est un énorme travail parce que je faisais ça moi en plus, mon travail. Mon travail d'écriture, d'édition, très très excitant à faire, sauf qu'à un moment donné j'étais malade et que la maladie, en fait j'étais obligé petit à petit j'arrivais plus à faire à démarcher les libraires. En fait, c'est des petites choses comme ça qui se déforment petit à petit. Et puis un jour j'ai dû quitter un salon parce que j'avais la fièvre et que je me suis dit, moi je peux plus continuer comme ça. Donc j'ai terminé ce qui était en cours, quoi. Je voulais pas finir d'un moment. Donc j'ai pu le dernier livre, c'est l'ardoise magique d'Anne la nièce, quoi. Donc après, j'ai proprement mis la clé sous la porte, quoi. J'en garde quand même un très bon souvenir. Ça, peut-être pas ce que je faisais le mieux éditeur, mais enfin, je trouve que c'est une activité vraiment magnifique.
Et alors, finalement, qu'est-ce qui caractérise, parce que quand je regarde, je vois aussi des éditeurs dans la salle, y compris derrière les objectifs. Bon, à partir de quel moment on va passer de ce statut de petit ou de micro-éditeur à ce qui serait un statut d'éditeur?
Parce que pour toi, micro-éditeur, c'est pas être éditeur.
Non. Pourquoi on dit micro? Pourquoi on dit micro ou petit? C'est simplement la question que je pose.
Oui. Je pense que c'est une question de, voilà. C'est une question de diffusion avant tout.
Oui.
C'est vrai que voilà, la micro-édition n'a en règle générale pas accès, pour raison budgétaire, à la diffusion, distribution qui coûte très très cher, ouais, pour aller chez Hachette, Harmonia Mundi ou des choses comme ça. Il faut vraiment avoir les reins solides déjà à la base quand on lance la maison d'édition. Quand on est micro-éditeur, on a un petit budget honnêtement au départ, hein, puis en règle générale ça reste comme ça. Mais bon, on n'a pas les moyens de se payer cette diffusion. Donc c'est vraiment ce qui fait la différence. Du coup, on adapte aussi notre façon de fonctionner à ça. C'est-à-dire qu'on fait des tirages qui sont nettement moins importants que les plus gros éditeurs qui sont diffusés, distribués en librairie. Et on essaye de trouver des moyens aussi déviés pour nous faire connaître et gratuits si c'est possible. Voilà, genre bon, Internet, hein, c'est vrai, Facebook, ce genre de choses, c'est pratique. Mais voilà, moi, je pense que le nerf de la guerre, c'est de toute façon... c'est de toute façon la diffusion-distribution.
Et ça tient aussi, cette question de diffusion-distribution, oui. C'est une question d'avoir les reins solides ou pas, mais c'est aussi la possibilité de produire un nombre de titres ou pas, parce qu'il y a des exigences de la part des diffuseurs qui vont nous demander de produire tant de titres chaque mois. Et moi, par exemple, avec le travail que je fais avec mes jeunes auteurs, il est impossible, totalement impossible, que je me mette dans un système comme ça où je vais être obligée de produire, sans faire en fait ce qui me tient à cœur. Et je pense que quand on est petit éditeur, ce qu'on fait, c'est qu'avant tout, on est passionné par ce qu'on fait, et c'est ça qui nous fait tenir. Et si on perd, ça... en ce qui me concerne, parce que moi c'est un petit peu particulier, mais si je perds ce travail dans la durée avec les auteurs, je n'ai plus de raison d'être finalement. Donc voilà, il faudrait qu'il y ait un diffuseur qui s'adapte aussi à mon projet, sachant que c'est des auteurs complètement inconnus, etc. Donc...
Bah alors certains diffuseurs ont essayé
donc
de le faire.
Donc c'est même pas la peine, quoi. C'est
oui.
On peut pas dire que ça a été un grand succès, voilà.
Voilà.
Ouais, ouais.
Mais bon,
voilà.
Après,
c'est sûr.
C'est donc le risque à prendre. Hein.
Mm-hmm. Voilà, non, à ce moment-là, vaut mieux rester sur une niche avec un public qui devient fidèle, parce que moi j'arrive à fidéliser un public sur la maison d'édition, c'est-à-dire que les titres d'Inescripteur, pas sur un auteur, parce que les grands noms, forcément, on va chercher tel auteur, etc. Et moi, on sait que j'ai peu de publications, mais quand il y en a une qui sort, tout le monde vient voir ce que c'est, ce nouvel auteur. En général, c'est des choses assez différentes aussi, et de ce qui se fait, et de ce que j'ai déjà produit. Donc voilà, il y a une attente qui est différente et qui me permet de produire peu en même temps.
Alors, est-ce que c'est un mouvement, celui de la micro-édition, hein, édition à part entière, mais bon, si vous êtes ici, c'est que vous avez accepté de toute façon cette qualification, je veux dire, autour de la table. Est-ce que c'est un mouvement qui peut être pérenne, ou est-ce que c'est une réaction d'ailleurs face à un mouvement de concentration chez les grands éditeurs, et là je vais utiliser un autre adjectif, grand, hein, ou bien est-ce que on trouve déjà, ou on peut trouver déjà des traces de micro-concentration chez les micro-éditeurs? C'est-à-dire, par exemple, ce que je veux dire, c'est des gens qui peuvent se regrouper, peuvent se regrouper pour travailler. Je regarde personne pour travailler. Non, mais avec un diffuseur, par exemple. Hein, bon, pour organiser ensemble des rencontres, des salons, on a des choses qui... Est-ce que existe le risque, et après tout, en disant risque, je prends une position, mais est-ce qu'il y a le risque que cette micro-édition débouche finalement sur une banalisation de la chose après simplement un renouvellement du personnel de l'édition? Alors, voilà. Est-ce que tu envisages le futur simplement seul ou en te regroupant avec d'autres
Me regrouper avec d'autres, je vois pas pourquoi, parce qu'on fait pas vraiment les mêmes choses tout le temps non plus.
C'est ça qui est intéressant. C'est de...
Après, moi, je trouve que c'est vraiment aussi quelque chose d'assez solitaire. Moi, je fais mes propres choix et ils sont assez... ils sont même très, très personnels. Donc, je ne me vois pas m'associer avec quelqu'un d'autre pour partager le plaisir que j'ai aussi à éditer ce que j'édite actuellement, quoi. Donc, voilà. Après, pour des raisons plus commerciales, quand on est un peu plus gros, effectivement, qu'on peut faire les indés de l'imaginaire, je trouve ça effectivement très utile, surtout dans la conjoncture actuelle qui est vraiment très, très difficile, que ce soit pour les éditeurs, les auteurs et les libraires. Très difficile. Mais moi, pour la micro-édition, je ne crois pas que ce soit nécessaire parce que, justement, parce que c'est très micro, donc on arrive quand même, malgré tout, à gérer ce qu'on a à gérer.
C'est une indépendance.
Je pense qu'il y a une vraie volonté d'indépendance.
On a un point de vue différent.
Je rejoins
Xavier dans le sens où, on va dire, au sein même de différentes maisons, on ne va pas s'associer en disant, pas forcément s'associer en disant, on va faire un programme commun, on va se regrouper pour faire, pour faire qu'une seule maison, une boss ou autre. Mais là où on peut se rejoindre, c'est ce qu'on fait avec les descripteurs, se réunir pour faire des salons. Ouais. Ne serait-ce que pour faire du covoiturage, ça a l'air tout bête, mais plutôt que on fait tel salon, on le fait tous, on est à peu près tous du même coin.
Oui.
Plutôt que de dire bon, on part chacun de notre côté, toi en train, moi en voiture, et on fait voiture commune,
mutualisme moyen,
éventuellement on fait stand commun,
même pour louer des stands, toute la logistique.
Voilà.
Puis ça nous permet de discuter. Puis c'est vrai qu'on est assez complémentaires, parce que Jérôme est un peu plus SF, Fred un peu plus fantastique,
alors,
moi un peu plus fantasy.
Est-ce
qu'on peut constituer un pôle de l'imaginaire aussi à nous trois sur les salons régionaux?
Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de rediriger, par exemple, un auteur vers un autre
micro-éditeur? Moi, je le fais tout le temps. Ah, je le fais tout le temps.
Tout à fait. Mais ça parce qu'on se connaît, on a de l'estime pour ce qu'on fait d'une manière réciproque.
Je sais, mais par exemple, comme disait Abel, elle, c'est plutôt les jeunes auteurs ou autres. Si je vois un jeune auteur qui n'est pas forcément, on va dire, un texte qui m'intéresse, qui rentre dans ce que j'aime d'habitude de publier, je le réoriente vers Isabelle et inversement.
Voilà, moi si c'est des auteurs un peu plus aguerris, qui ont déjà publié des nouvelles à droite à gauche, qui connaissent un peu déjà comment ça fonctionne, le travail. Moi j'ai un travail un peu pédagogique avec mes jeunes auteurs sur comment ça se passe, les navettes de correction, qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'édition, qu'est-ce que c'est aller sur un salon rencontrer des lecteurs. Bon, donc il y a ce travail-là. Des auteurs qui ont déjà un petit peu cette expérience, je vais plutôt les orienter vers Jérôme notamment. Mm-hmm.
Moi, j'ai le souvenir d'un manuscrit que j'ai reçu pour Ad Astra, que j'ai trouvé absolument fabuleux, quoi. Et, sauf qu'il faisait 2 500 000 signes, espace non compris. Voilà. Moi, techniquement, j'ai pas. Ah oui, je l'ai lu en entier. Ouais. Techniquement, je peux pas l'éditer. Je peux pas l'éditer, ce bouquin, c'est pas possible. J'ai pas les finances pour éditer ce genre de livre. Ben, je l'ai renvoyé vers un autre éditeur qui a ses reins plus solides. Et résultat, il a été pris tout de suite. Enfin, voilà. Et il s'appelle Dominium Mundi. Ça va paraître aux éditions critiques. Voilà. C'est un planète opéra. C'est un space opéra qui s'inspire un peu comme le roman de Hugo Bellagamba de la Jérusalem délivrée du Tasse, en fait. Voilà. Sauf que là, c'est une version space opéra avec des curés dans l'espace. Et puis après, c'est une croisade sur une planète qui s'appelle Akia. C'est juste absolument génial, quoi. C'est épique. Enfin, il y a tout, quoi, dans ce bouquin. Et moi, j'ai purement adoré. Mais je pouvais pas le faire. Et voilà. Et je pense qu'on peut aussi servir. On peut aussi servir à ça. On peut servir de relais.
Même en 2 volumes, vous pouvez pas le faire.
Non. Non, critique le fait en 2 volumes. Moi, je l'aurais fait en 27.
Ça fait beaucoup.
Ouais.
Ça fait un feuilleton. Oui.
Je peux pas aller au-delà d'un certain nombre de pages.
Et c'est vrai qu'à côté de ça, nous, on a aussi fait un projet en coédition. Parce que moi, normalement, je fais pas d'anthologie. Et on avait eu, c'était Fred qui avait eu l'idée là, de lancer un appel à texte sur le thème de l'Apocalypse. En 2012, parce que bon, c'était un petit peu d'actualité. Et donc, on s'est associés. Puis, au résultat, donc on a fait des choix ensemble. On a travaillé ensemble dessus. Et ce qui a permis un petit peu de mixer nos lignes éditoriales, c'est-à-dire que dans cette anthologie, il y a des jeunes qui publient pour la première fois. Il y a également des auteurs qui ont déjà publié d'autre part. Et ça ouvrait aussi par rapport à toi qui travailles beaucoup avec des auteurs de la région. Donc, on travaillait sur un périmètre plus large, quoi, parce que moi, je suis plutôt une vocation nationale. Donc, ça permettait de mixer un petit peu nos lignes et de travailler ensemble. C'était sympa aussi, quoi.
Alors, cet aspect sympa, comment le... non, mais c'est important. Mais comment peut-il se traduire sur le plan économique? C'est-à-dire que, est-ce que réellement, il peut faire vivre ceux qui pratiquent la micro-édition? Est-ce qu'il peut faire vivre les auteurs écrivent pour eux? Est-ce que...
Ça se passe pour la moyenne édition aussi.
Mais absolument.
Non,
mais c'est la question qui va, c'est qu'il faut poser, quoi.
Il faut demander à Laurent Weil
le
montant d'échec que je t'ai fait.
Les auteurs réussissaient à vivre chez les grands éditeurs, déjà.
Oui, ça serait déjà ça. Oui, mais alors, justement...
J'ai 100 exemplaires que tu fais vivre en auteur.
Justement,
pas forcément des tirages à 100 exemplaires. D'ailleurs, je m'inscris un petit peu en faux par rapport à ce que tu disais au début. Je pense que la petite édition existait avant les tirages numériques. Je veux dire, c'est vrai que les tirages diminuent, mais même chez les grandes maisons, parce que le nombre de titres explose.
Qu'est-ce
forcément.
Que tu appelles petite édition, finalement, numériquement?
Ben, les petites maisons et les tirages numériques, ben, j'ai vu que des confrères faisaient des tirages à 100, grand maximum 300. C'est vrai que moi, au début, j'étais partie sur 1000. Bon, je les ai baissés aussi, parce que, effectivement, moi, je stocke chez moi dans mon salon. Donc, voilà, donc après, bon, je me suis alignée sur ça aussi. Mais je veux dire, il y avait des petits éditeurs. Les grands éditeurs, on commence en étant petits, déjà, pour commencer.
Oui.
Et les gens évoluent
aussi
peu à peu.
Il y a très longtemps, hein.
Oui, mais je pense qu'il faut du temps, de toute façon.
Moi, je fais des tirages à 400 maximum. Enfin, c'est la limite que je me suis fixée. Enfin, sauf pour certains livres.
Oui, moi, je suis passée à 400. Voilà. 500.
Sauf 400. Pour un ou deux où j'ai tiré à 800. Ouais. Finalement, ils sont moins vendus que les autres.
Il y a l'enjeu aussi. Moi, j'ai la question qui s'est posée à un moment donné. J'avais envie de faire quelque chose. Je sentais bien qu'il y a une connexion entre les gens qu'on a vraiment envie d'éditer, mais dont c'est pas forcément dans nos moyens, mais que ça vaut le coup. Et en fait, quand là, pour moi, l'investissement, je viens pour le recueil d'Ursula Le Guin. Effectivement, j'ai contacté des gens, je ne connaissais même pas les us et coutumes de la chose, mais l'agent en France d'Ursula Le Guin, on ne négocie pas avec lui. Et il m'a dit qu'il me faisait la meilleure remise, je lui ai fait confiance. Après, pareil, j'ai trouvé une traductrice, j'ai trouvé quelqu'un qui était pro et tout, qui a été très réglo, quoi, mais qui avait ses exigences. Donc il y a eu toute une somme, en fait, au départ. En fait, pour moi, c'était évident que ça ne se discutait pas, parce que le but, en fait, c'était de prendre un livre assez rare, quoi, d'un grand auteur. Donc là, l'investissement, il ne s'est pas fait sur le tirage. Le tirage, il serait petit de toute manière. Le but, c'était éventuellement...
Mais quand tu sors...
Il y a un gros investissement de départ sur le montage du livre, et aussi, d'ailleurs, une demande de subvention pour la traduction.
Quand tu fais ce choix de publier sur Ursula Le Guin et de faire traduire, c'est quoi ? C'est le désir de faire connaître un texte ou c'est l'envie peut-être de faire connaître la mise en édition pour tirer les autres textes ?
C'est l'idée que si je suis éditeur, c'est pas pour faire des petites choses de manière mesquine, quoi. Et que on a toujours, enfin moi c'est une crainte que j'avais de faire des petits choix et de jamais de donner de direction au regard en disant ben, en fait moi ce qui me motive c'est cet auteur là en fouillant sa bibliographie je m'aperçois qu'il y a des trous, des choses sur lesquelles personne, parce que le recueil que j'ai fait en fait est complémentaire d'un autre qui est paru chez un très grand éditeur, en fait. Donc bon, il n'a pas voulu l'éditer, je ne sais même pas pourquoi. Mais l'idée, c'est de placer le regard le plus haut possible en disant, ben, tant pis, je suis tout nu, mais on va aller donner la direction de la Lune.
Oui, il n'y a pas que le tirage.
Sinon, j'ai aussi l'impression, pour revenir un peu, ce qui fait aussi la différence entre les petits éditeurs comme nous et les gros, avant. J'ai l'impression pour beaucoup, c'est en partie se faire plaisir. Pouvoir se faire plaisir et éditer les textes qu'on aime, auxquels on croit, sans se dire « Ah oui, mais mince, si je publie ça, c'est un texte que j'adore, qui est fabuleux, oui, mais il va se vendre à il risque pas de trouver son public. » Et donc, j'ai l'impression qu'il y a certains grands éditeurs, on va dire... De maisons installées qui se brident un peu par moment parce que mais ça je publie pas, ou alors pour publier celui-là que j'adore je suis obligé de publier celui-là que je déteste mais auquel c'est une valeur sûre, je sais qu'il va se vendre comme des petits pains et donc de devoir jongler et faire des concessions donc purement marketing
financière
et alors que bon que pour les petits éditeurs c'est un peu moins ça, c'est plus
parce que de toute façon ça va pas nous rapporter grand chose de toute façon donc on peut y aller dans nos choix
ça va pas nous rapporter grand chose et ça va pas nous faire perdre entre guillemets grand chose ça va pas forcément remettre en cause la petite maison d'édition qui en appartient si un bouquin qu'on sort va se vendre si tu vends qu'à 50 exemplaires. Oui, bon, sur un tirage de 200 ou 300, c'est moins grave que si sur un tirage de 3000 exemplaires, t'en vends 50.
Et alors, quand vous avez commencé les uns et les autres la petite édition, quels ont été les écueils que vous avez rencontrés d'abord ? Qu'est-ce qui a été la surprise dans les difficultés ? Au contraire, ce qui a pu être plus facile que ce qui était attendu ? quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui voudrait s'en lancer là-dedans, mis à part le conseil de « c'est pas la peine, on est déjà là
». Ouais, de ne pas se lancer.
Ouais.
Oui. Moi, j'avoue que le principal écueil, ça a été de créer la structure, en fait. Parce que je voulais créer vraiment une entreprise au départ. Donc, je suis passé par la chambre de commerce de Rennes. Et au bout d'un an et demi, en fait, ça n'avançait toujours pas, quoi. Mais vraiment toujours pas. Et il y a eu cette chose qu'on appelle l'auto-entreprise qui est apparue. Et là, je l'ai fait en 24 heures, presque, hein, voilà. Et donc, mais ça a été vraiment le principal écueil. Après c'est des bons ou des mauvais choix qu'on fait sur certaines choses. Dans ce domaine, j'en ai fait des bons et des mauvais. Mais bon, enfin, j'ai pas connu d'écueil particulier, parce que c'est vrai que tant que le plaisir, comme tu dis, tant que la passion est là et qu'on a vraiment envie de faire les choses, on accepte ce genre de choses. Donc bon, voilà, moi, ça, j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus.
Et en marge des aspects financiers, bien sûr, de la chose, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme information ou formation ou avertissement avant de commencer ça?
Une formation à InDesign.
Oui. Il y en a par les offices, les agences régionales. J'en ai fait par l'agence régionale.
Et puis, c'est vrai que moi, je n'avais pas du tout ces informations-là. Donc, j'ai vraiment galéré au départ pour faire les maquettes, etc. Enfin, je prends les Pilleurs d'âme de Laurent, par exemple. Hormis l'illustration d'Eric Scala, qui est magnifique, hein, voilà. Mais la maquette, tout, enfin, j'ai fait, mais j'ai je ne sais même pas 6 mois à comprendre comment tout ça fonctionnait, comment ça pouvait s'assembler, etc. Donc c'est un vrai processus. Puis après, comme de toute façon, je n'étais pas très doué dans le domaine, j'ai pris un graphiste. Voilà. Moi, lui, il savait ce qu'il faisait.
Tu avais de la chance que j'ai failli te faire tuer. Juste
ouais. Mais du coup, on a refait la maquette des Pilleurs d'âme après. Hein.
Même question.
Moi, sur ces questions techniques, je n'ai pas trop de soucis, puisque j'avais quand même une solide expérience dans la correction et la mise en page. Alors c'est vrai qu'en plus j'ai fait des stages auprès d'une correctrice dans l'édition pour bien maîtriser le code typo. Je fais pour financer mes projets des prestations de services auprès d'autres éditeurs en correction et en mise en page. Donc InDesign, c'est mon domaine. Donc
c'est... Voilà. Je vous présente, on a l'autre.
Même des contrôles, etc.
Bah écoute, tu vas faire mes maquettes.
Donc c'est vrai que sur la question du montage technique, moi j'ai beaucoup réfléchi au statut aussi. Il n'y avait pas encore le statut auto-entrepreneur. J'ai choisi un statut de SARL.
C'est ce que je voulais prendre.
En pensant voilà, que ça m'a... Ouais, avec la chambre de commerce aussi, en suivant un peu des formations là-bas. En pensant que ça m'apporterait plus de crédibilité, par exemple, vis-à-vis des libraires. Moi, mon désenchantement, il est plutôt à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, en m'adressant à un jeune public, aussi bien au niveau des auteurs qu'au niveau du lectorat, je les incite à aller chez les libraires. Donc, plutôt qu'ils me commandent directement, je leur dis « Vous avez bien un libraire ?» Et puis en fait, je me suis aperçue que la moitié ne répercutait pas. Alors je m'en rends tout à fait compte, puisque je suis en relation directe avec le public. Je suis sur les blogs, je suis sur Facebook. Donc les choses ne m'échappent pas, quoi. Et le libraire qui dit « Ah ben non, j'ai pas trouvé », alors qu'il y a qu'à taper les Netscripteurs sur Google et vous verrez 10 pages de chroniques, de sites officiels.
Sorties,
il y a beaucoup de mauvaises foi. En même temps, je comprends qu'ils prennent pas, donc j'ai un peu du dépôt-vente. Il y en a certains qui aussi me prennent des commandes directes. J'en ai même qui m'en prennent en office, donc dès que j'ai un bouquin qui sort, qui m'en prennent une dizaine, donc ça... C'est assez sympa, mais bon, c'est vrai que sur l'ensemble, j'ai beaucoup de désenchantement à ce niveau-là. Voilà.
Mais les libraires, c'est vrai que dès qu'on sort du système traditionnel, c'est dans de la diffusion distribution, et que même au niveau de l'information, quand ça passe pas par Dilicom ou Electre... La plupart
c'est
vont
vraiment
pas
la
faire
mauvaise foi, quand
la plupart vont même pas faire l'effort.
Oui, ils vont pas faire l'effort.
De toute façon, ils vont regarder.
Et on va venir sur ces
alors qu'on leur amène une commande. Voilà.
Et ils vont regarder qui est le diffuseur-distributeur. Ouais. Ça marche comme ça aussi. Et si c'est. Je ne vais pas citer le nom.
Et là, on revient sur la question de diffusion.
Ils vont prendre ou pas prendre. Ça, éventuellement, effectivement. Mais ça, c'est plus une question de.
Alors aujourd'hui, aujourd'hui justement, c'est quand même le problème. C'est-à-dire la distribution, la vente, parce que ça passe par de la vente. Mais enfin, aller vers vers le public, établir le lien entre l'écrivain et puis le lecteur. Jusque-là, on est arrivé à la constitution du livre, au travail d'éditeur sur les textes qu'on a évoqués rapidement. Bon, ensuite, ça devient un objet. Et puis, c'est là que se pose le problème. Vous venez de l'évoquer. Comment est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce qui travaille avec un distributeur diffuseur? Qu'est-ce qui a arrêté de le faire? Pourquoi? Et qu'est-ce qui travaille en direct?
Eh ben moi, j'ai arrêté de le faire.
Hein. Oui,
je sais. Oui, je suis parti de le coup.
Je vais pas dire de l'expérience sur ça.
Non, je dis pas.
Mais bon, disons que j'ai eu énormément de problèmes. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est notamment financier et puis au niveau aussi du professionnalisme, quoi, qui n'était pas du tout au rendez-vous. Enfin, je veux dire, justement, le contact avec les libraires n'a jamais été fait. Il n'y avait pas de représentants, il n'y avait pas de... Il y avait rien qui fonctionnait, quoi. Vraiment rien. Alors autant quelque part quand rien ne marche, autant faire les choses nous-mêmes, puisque on paye quelqu'un pour le faire et il le fait pas le boulot. Donc voilà. Et ben mois après mois, ça a fini par plomber ma maison d'édition. Quoi. Voilà. Et si encore Ad Astra existe maintenant, je dois avouer que c'est merci à Pascal Godbillon parce qu'il a racheté le cycle de l'Hormeur en folio. Et voilà, c'est ça. C'est juste pour ça. Sinon Ad Astra n'existerait plus. Ouais. Mais bah, justement, c'est ce que j'aime bien dans ce système éditorial actuel quand même, du milieu de la SF aussi, hein, c'est qu'il y a quand même une solidarité quelque part qui est vraiment très agréable. Quoi.
Ouais. Recours à un diffuseur, à un distributeur?
Pas à mon niveau, je suis microscopique. Moi, je travaille en direct avec des libraires autour de chez moi, et même là, c'est pas évident. C'est pas évident parce que même quand tu arrives avec ton paquet de livres sous le bras pour en laisser en dépôt, c'est du dépôt, ils n'ont rien à payer, ben souvent ça les fait chier. Donc des fois tu laisses les paquets de livres filmés, puis tu repasses 6 mois après. Ben,
et ils sont toujours filmés.
Ils sont toujours filmés.
Il n'y a pas une pression, puisque tu dis que tu prends maintenant certaines fois d'autres auteurs, et il n'y a pas une certaine pression des auteurs que tu publies?
Non, parce que.
Toujours une pression des auteurs. Voilà, ouais.
Moi, j'aimerais bien que j'ai
publié avant l'anthologie, l'auteur a été démarché des librairies sur son patelin en me disant oui, c'est bon, je suis passé les voir, contactez-les de ma part, ils sont chauds bouillants.
C'est dans la poche.
Et puis quand toi tu appelles derrière, tu te déplaces parce qu'encore une fois, moi je travaille vraiment sur du local, même au niveau des auteurs, parce que c'est plus pratique. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ma ligne éditoriale. Tu vas voir, tu te déplaces, tu vas voir le libraire, ou tu le téléphones, et puis on t'oppose une fin de non-recevoir. Ça n'intéresse pas.
Ils ont aussi. Hein. Voilà,
et puis même des fentes rayonnées. Moi, je sais que sur le premier, c'était de la fantaisie. On dit la fantaisie. Carrément, une rayonnée. Ouais. Je trouve ça assez grossier quand même.
Là, c'est toujours grossier. Et toi?
Non, mais la fin de cycle, bon, pareil, on parle de diffuseur, distributeur.
Ouais.
Pas encore. Pas encore. C'est surtout,
ça veut dire qu'il y a des projets.
Enfin, tous les projets, il y a des espoirs, on va dire. Mm-hmm. Il y a un moment où on espère.
En moi, tu t'es renseigné.
Ouais, voilà. Ouais. Mais bon,
et moi aussi, je me suis renseigné.
Ce qui est effectivement, marché. Surtout, donc, salon, festival, etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'aussi, une des difficultés qu'on a, c'est aussi pas forcément non plus la taille, c'est aussi qu'on est dans une littérature vraiment de genre,
c'est vrai.
Qui est littérature de, entre guillemets, de merde pour certains lecteurs dignes de ce nom. Moi, les expériences.
Qui s'estiment dignes de ce nom.
Voilà. Les expériences que j'ai, au tout début, je faisais pas mal aussi de salons. On va dire non spécialisé,
généraliste.
C'est des aspirants. Quand tu vois, tu présentes tes bouquins, tu n'as personne qui s'arrête. Les seuls commentaires que tu peux avoir, les moins désobligeants, c'est « Ah non, mais moi, mon fils, il ne lit pas. » qu'à côté de toi, qu'à côté de toi, t'as une petite maison d'édition qui est aussi petite que toi, qui fait un bouquin à prendre le tricot
en trois leçons.
Voilà, en trois leçons. Mais lui, il a la couverture blanche comme il faut, qui fait pro et qui fait vraie littérature et les bons titres et où tout le monde s'arrête pour au moins pour regarder un quatrième. Mm-hmm. Tu dis bon.
Les livres d'Orsay de confiture. Voilà.
J'ai envie d'apprendre le tricot.
Oui, voilà, oui.
Ou la confiture.
Donc, tu te dis, ils arrivaient à un moment où je me dis, bon, si je continue les salons, on va dire non spécialisés, je vais faire des surcouvertures blanches comme il faut, au moins.
Est-ce que tu as l'accroche commerciale? C'est-à-dire que quand tu as ton étalage de bouquins, est-ce que tu accroches le chaland quand il passe?
Non, ça, je sais, c'est pas mon
voilà, point fort. Mais Laurent est un professionnel.
Oui, non, mais...
On va t'embaucher.
Non, il y a une vraie question.
Tu as aussi l'accroche, mais au minimum, avant d'accrocher, il faut au moins, que la personne ralentisse de votre stand.
Oui, mais ça c'est un boulot.
Quand tu vas chez le boucher, tu passes devant un étalage, il y a plein de bidoches, il y a plein de saucisses, il y a plein de machins. Tu n'as pas envie de viande, tu veux du poisson. Tu passes devant chez le boucher, tu regardes pas, d'accord? Si le boucher il te choque pas, il te dit oh mais il est joli votre fils, comment c'est quoi?
Mais il a raison.
Mais non, mais c'est exactement.
Moi, je suis d'accord,
mais il a tout à fait raison.
Oui, mais le problème dans ces cas-là, c'est que ce que tu vas choper entre guillemets, c'est des lecteurs de littérature de vrai. Même si tu le chopes, à moins d'y aller avec le flingue sur la tempe.
Non.
Voilà.
Ben non.
Je suis d'accord. Dans la micro ou petite édition.
Tu peux arriver à faire ça. C'est crevant. C'est comme la pêche au lancer. C'est crevant.
Mais je veux dire, si.
Vous êtes dans des quantités qui sont dans la centaine.
Oui.
D'accord. Donc on n'est pas dans un merchandising comme on a chez Bragelonne, chez Monsieur, par exemple. Voilà.
Ouais.
On a une table pleine de plein de bouquins et il y en a 2000 exemplaires de chacun. Et là, les gens s'arrêtent parce qu'il y a une forme de joie et ça fait joli et ça fait sérieux. Et tout ça,
c'est
une belle couverture.
C'est aussi pour ça qu'on se regroupe. Hein.
Mais ça, c'est du marketing.
Oui, mais c'est aussi pour ça qu'on se regroupe, par exemple, sur les salons.
Voilà. Vous êtes derrière votre table, si vous voulez pécho des mecs pour vendre votre 100 bouquins, vous m'embauchez.
C'est ce que j'ai fait.
Non, mais c'est vrai que le fait
oui.
Que
oui.
Professionnel, non, je peux te dire que moi j'ai fait des salons professionnels dans les métiers de bouche. Quand tu essaies franchement d'arrêter un gars, celui-là, tu te dis après, je suis là, j'aurais pas dû l'arrêter. Parce qu'il va se tenir à la graffe pendant une heure et demie, tu sais qu'il ne s'achètera rien. Pas de sang.
Des histoires de salons, on en aurait raconté.
On a eu une trentaine de sessions. Le mec.
C'est le risque du métier. Hein.
S'il vous plaît.
C'est le risque du métier.
Et qu'est-ce qu'il attend? Et qu'est-ce qu'il attend, l'auteur du petit éditeur?
Du pognon.
Non, mais c'est intéressant.
Non, mais qu'est-ce qu'il attend Pierre,
oui.
Ce que peut attendre l'auteur qui va voir le petit éditeur, c'est aussi un travail sur son manuscrit que fait plus les gros. Oui, enfin, en tout cas, maintenant que fait plus les gros. Moi, je sais d'expérience, il y en a certains des textes qui me paraissent, et ça, c'est une expérience. Je pense, pour moi, l'avantage aussi d'un petit éditeur, c'est le côté un peu famille.
Oui, c'est ça, j'allais dire la proximité.
C'est ce que j'aime de la SF. Ce qui fait que ma manière de fonctionner, au moins jusqu'à il y a peu, c'est je lis un manuscrit, je le commente, et puis, bon, tiens, voilà, ton manuscrit, je ferai ça, ça, ça et ça, ok, et là, ok. Et puis, j'ai eu une fois une expérience où j'ai fait tout le boulot dessus. Mm-hmm. Et puis qu'après, bon, mais voilà le contrat que je te propose. Celui-là n'est plus dispo parce que tel éditeur me l'avait refusé. Avec tout le boulot que tu as fait dessus, maintenant, il a pris. Mais par contre, j'en ai un autre si tu veux. Je peux te proposer.
Si tu veux bosser dessus.
Non. Voilà. Et ça, c'est peut-être... J'ai l'impression que c'est aussi ce que font les
petits
éditeurs.
C'est arrivé une fois, quand même.
Oui, mais, non, mais ça m'est arrivé.
Mais ça,
oui, ça m'est arrivé une fois, malheureusement, ce qui fait que maintenant...
Tu signes le contrat avant.
Voilà, je dis, attends, stop. Éventuellement, je te le prends si tu fais quelques modifs. C'est quoi, les modifs? Non, mais ça, je te dis, on verra après.
On verra le détail ensuite.
D'abord, je t'envoie le contrat, dis-moi si te convient. Et puis, ce qui m'en quitte de faire comme ça, mais...
Mais c'est marginal quand même.
C'est un rapport.
Oui.
Sur les auteurs que tu publies, Jérôme.
Oui.
T'as un mec qui t'a fait une.
Jusqu'à
maintenant, oui, parce que pour moi, tout ce que j'ai publié, c'est des auteurs, enfin des auteurs confirmés. C'est des auteurs qui ont une mentalité pro, entre guillemets. Là, bon, c'est sur des manuscrits d'auteurs, de jeunes auteurs. Et moi, je pense aussi, c'est aussi une spécificité et ce que recherchent certains auteurs qui s'adressent aux petites maisons d'édition. C'est véritablement des conseils, c'est un travail sur un manuscrit que fait plus les groupes.
Je nuancerai quand même parce que je travaille en tant qu'auteur, je travaille avec de plus gros éditeurs aussi. Et j'ai jamais autant sué sans EO qu'avec ces éditeurs-là. Je travaille avec Rajo actuellement, j'en pouvais plus des fois.
J'ai des auteurs qui travaillent dans l'édition aussi.
T'as certains auteurs qui font ça.
Ah ouais, oui. De Rajo. Ah ouais, c'est ça, et je trouve ça très bien parce que j'apprends plein de choses. D'accord, mais en tout cas, c'est vrai que je voulais nuancer de ce côté-là parce que.
Et je trouve ça très bien.
Ah ouais.
Non, mais je dis pas.
Ouais. Ah ouais, je suis très content. Moi, enfin, avec Rajo actuellement, j'apprends plein de choses encore, quoi. Voilà. En plus, c'est l'écriture jeunesse, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et du coup, moi, je suis vraiment. À l'écoute.
Il y a deux paramètres. Ah ouais. En jeunesse, de toute façon, c'est extrêmement rare qu'il n'y ait pas un travail drastique. Quelquefois, beaucoup trop drastique sur les textes.
On peut considérer ça effectivement comme un peu trop aussi. Ouais. Oui. Parce qu'après, on peut se demander ce qui est encore de nous et ce qui est plus de nous.
Et ça fait partie aussi de l'intérêt d'un petit éditeur pour un auteur, c'est qu'il y aura cette proximité qui fera que les choses, on va en discuter. Je veux dire, moi, ils ont toujours peur, les jeunes auteurs, qu'on leur pique leurs textes, qu'on leur fasse des coups, sans rien faire.
Oui.
C'est leur hantise, qu'on leur vole leurs idées. Il y a des choses un petit peu comme ça. Et il faut leur expliquer que, nous, on va intervenir dessus, mais tout doit être validé, que lui pourra donner ses propres idées, que tout va se faire en concertation. Et je pense que c'est aussi cette proximité. Alors, je sais que dans les grandes maisons, il y a des éditeurs qui sont très à l'écoute. De certains auteurs. Voilà, je pense qu'après, ils font leur choix parce qu'ils ont beaucoup de choses à gérer. Et dans les petites maisons, on va s'attacher à chaque auteur. On va vraiment faire un travail vraiment de confiance. Il faut vraiment qu'on se fasse confiance, l'un et l'autre.
Après, c'est sûr qu'avec le petit éditeur...
Le jeune auteur, il pense qu'il a un bijou formidable. Et un truc, moi, mon premier texte, on l'avait enregistré à la GDL, j'avais payé l'abonnement, je me l'étais auto-envoyé chez moi pour recommander.
Mais moi, je leur propose de le faire pour qu'ils se rassurent, pour qu'ils soient rassurés.
Quoi. Personne n'en a voulu. Des années après, j'ai ouvert cette enveloppe et j'ai lu, et tu sais quoi, moi, j'en voudrais pas.
Enfin, cela dit, c'est vrai qu'il y a...
C'est bien, au moins, t'as avancé. Oui, vas-y, Bernard.
Il y a aussi le fait que c'est un rapport, c'est-à-dire que quelqu'un qui t'envoie un texte, moi, je m'étais aperçu assez vite, c'est que le réflexe, de toute façon, c'est de le lire et de le critiquer. Et puis, tu attends. Parce qu'effectivement, la personne qui dit, mon texte est parfait, on ne peut pas y toucher.
C'est pas la peine.
Et en fait, c'est la première chose, c'est, tu dis, bon, c'est bien, mais...
Voilà.
Tu mets pas forcément la liste exhaustive, parce que ça fait peur. Mais au moins, tu fais bien les grandes lignes. Ouais. Mais j'ai un copain comme ça, un copain en plus. Donc je lui ai répondu franchement et tout. Il me dit, en fait, il avait pas envie de travailler. Oui, c'est un ex-copain.
C'était un ancien copain.
Il avait pas envie de travailler et il avait travaillé avec un éditeur, en fait, qui lui laissait les...
Tout faire.
Il dit, je suis auteur, on ne touche pas à mon texte. Donc, il avait son...
Mais moi, je leur explique que même les grands écrivains, ils travaillent avec un correcteur.
C'est comme au ping-pong, si tu veux. Tu renvoies la balle, si la balle, elle sort de la table, c'est fini, il n'y a plus de jeu. Ouais. Donc, et s'il renvoie la balle, effectivement, là tu... te rendre dans les champs, ça devient intéressant.
C'est donc d'ailleurs avec ces auteurs-là qui ne veulent pas toucher une ligne de leur manuscrit, on voit bien qu'il y a soit ouvrage dirigé par ou alors ouvrage coordonné par. Voilà. Coordonné par, ça veut dire que l'auteur n'a pas voulu toucher son texte. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps pour un bouquin que j'ai dirigé chez un autre éditeur. Mais bon, voilà. Pas touché,
non, moi je travaille avec des universitaires, des gens très calés sur leur sujet, etc. Ils ont l'habitude de travailler avec l'édition, ils savent très bien qu'on va discuter. Des fois, il y a un point, mais ce point-là, on va en discuter longtemps. Et ils savent très bien que ça fait partie du jeu et ils sont à l'écoute de, voilà, de ce que peut dire, ce que peuvent dire les uns et les autres.
Oui, mais est-ce
voilà,
que c'est...
Parce que ce sera leur nom qui sera sur l'ouvrage. C'est leur intérêt que leur texte soit au mieux.
C'est aussi la relation éditeur-auteur.
Mais ce point-là, moi je ne suis pas quand même persuadé que ce soit autant une spécificité de la micro-édition. Je pense qu'on peut aussi avoir dans l'édition, on travaille aussi avec un éditeur avec lequel on a des relations parfois de discussion, parfois même tendues ou parfois amicales. Et puis on peut tomber sur des micro-éditeurs qui connaissent rien dans ce boulot et qui vont publier du texte quasiment brut et qui vont pas être capables. Et il y en a quand même pas mal qui le font. Bon, on s'est entouré ici de gens qui font leur boulot, mais c'est pas toujours le cas.
C'est clair, il n'y a pas un gentil et des méchants. Je
oui. Donc c'est, la spécificité, c'est peut-être pas celle-là. La vraie spécificité, c'est quand même d'avoir effectivement des tirages qui sont.
Non, mais je pense qu'il y a une proximité quand même aussi qui est plus forte, parce que dans une grande maison, on va être plus en proximité peut-être avec le correcteur. Du coup, c'est peut-être plus avec lui qu'on va discuter.
C'est vraiment un truc de proximité.
Ouais.
On va plus avoir de proximité. Ouais. C'est pas une question de retravail derrière, etc. Des manuscrits.
Ouais.
C'est vraiment une
comme auteur, je ressens pas du tout comme ça.
Mais faire évoluer le projet, par exemple le bouquin de sur la mythologie, ouais. Il m'avait envoyé juste le texte, le côté dramatique. Donc c'est un livre en deux parties, une partie comique, une partie dramatique, un peu comme dans le théâtre grec, puisque ce sont des légendes grecques dont il est question. Et en fait, c'est en discutant toutes les deux qu'on est venu à cette idée de faire un livre à double face, parce que je connaissais ses écrits par ailleurs sur un blog où elle avait une réécriture comique des légendes mythologiques grecques. Et c'est venu comme ça, où après on a rajouté des cartes, un index, un glossaire. Enfin, c'est venu en discutant, et c'était pas du tout ce qu'elle. Enfin, voilà, le projet d'origine finalement. C'est un petit peu dans l'évolution, la discussion entre nous que ça évolue. Et je trouve ça très plaisant en même temps en tant qu'éditeur, pouvoir être assez près de l'auteur pour pouvoir faire évoluer le projet. Et qu'à la fin, même l'auteur, il est davantage heureux du résultat.
Mais encore une fois, pour moi, ce que tu décris, c'est un vrai travail d'éditeur et ça ne caractérise pas la micro-édition.
Si l'auteur n'est pas content, il va tout de suite venir taper.
Je ne pense pas qu'Antoine Gallimard soit ami avec tous les auteurs qui publient. Tu vois.
Non, bien sûr, mais il n'est pas seul non plus dans sa maison et il y a des éditeurs.
Voilà, mais c'est peut-être ça la spécificité aussi, c'est qu'on est un peu seul.
C'est
comment.
Pas lui qui a
la spécificité, pour moi, c'est un peu tout ça. La spécificité, on va dire, amicale, des bons rapports ou autre, est-ce que c'est une spécificité petit éditeur ou est-ce que c'est une spécialité aussi un peu du milieu? Qui veut ça.
Là,
on est à la convention. J'ai pas l'impression que dans les autres milieux, on va dire littéraires ou autres, il y ait cette ambiance-là, il y ait cette ambiance de famille entre guillemets, où on est tous, on n'est pas amis à 100% avec tout le monde. Il y a, c'est l'équivalent d'une grande famille. Il y a le grand-oncle qu'on supporte, etc. Est-ce que ce rapport d'amitié, on va dire, qu'on a avec les auteurs, qu'est-ce qui vient du milieu SF, qu'est-ce qui vient véritablement de la taille? Et effectivement, pour moi, vraiment la spécificité, comme tu le dis, c'est le tirage qui est plus faible que les autres, et aussi une certaine liberté qui fait que de ce tirage-là, on peut oser un peu plus, on peut se faire plaisir en disant, j'ai envie
prendre des risques.
Voilà, je vais mettre de ses choix. Ouais. J'ai envie, je sais pas, de faire un livre objet ou de faire de faire quelque chose que ça va peut-être pas se vendre, mais ça me fait plaisir. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire. De faire, etc. Un peu plus de liberté que n'ont pas les gros.
Parce qu'on n'a pas les mêmes impératifs financiers.
Oui, voilà. Ben parce qu'on n'a pas les mêmes impératifs financiers.
On n'a pas d'actionnaires
derrière. Du fait de nos tirages, c'est pas les mêmes risques financiers, c'est pas les mêmes...
Même si ces risques existent quand même.
Oui,
pour le... Oui, la peur de la faillite est quand même...
Je pense pas, je sais pas si on peut encore t'appeler micro-éditeur.
Oui, chez le micro, d'accord, le risque existe, mais dans le pire des cas, je prends mon cas, tu prends un risque, tu te plantes, allez, soyons fous, tu vas perdre 5, 6, 7 000 euros grand maximum.
Oui.
Oui. Non, je veux dire, c'est vraiment un maximum.
Un grand maximum.
Si tu es un gros éditeur, si tu te plantes sur un gros projet, c'est largement plus que ça.
Oui, mais je... Bah, ça m'est arrivé. Aux alentours de 7000 euros. Pendant un an et demi, j'ai vécu d'expédients. C'était une expérience qui était très, très importante parce que c'est comme ça que je me suis mis à éditer des nouvelles. Parce que d'une part, j'ai trouvé des expédients qui m'ont permis de petit à petit de payer les dettes. Et de l'autre côté, à un moment donné, j'ai eu l'idée de développer les nouvelles. Donc, à mon échelle, j'ai inventé un petit truc et qui m'a permis petit à petit de réentrer. De réenclencher et d'apprendre aussi à faire des choix, de savoir peser un choix en disant qu'est-ce que ça a comme conséquence de lancer une nouvelle. C'était des enjeux ridicules au niveau financier, mais petit à petit, et donc la galère et le fait de se dire si je me plante, je vais faire très mal.
Non, tu vas te faire mal, mais par rapport à d'autres métiers, par rapport à d'autres trucs, tu as certains métiers qui te demandent beaucoup d'investissement, ou si tu te plantes, mais tu te plantes de 40, 50, 60 000 euros. Dans la micro-édition, ça reste...
C'est vrai, mais en même temps, c'est pas l'essentiel. On fait pas de la micro-édition en se disant je vais faire ça parce que bon, j'aurais pu faire de l'investissement immobilier, mais au moins là, je vais me planter moins. Je pense que.
On fait ça avant tout.
Oui.
D'une part, parce que ça nous plaît.
Comme tout entrepreneur, finalement.
Et alors, est-ce que, puisqu'on arrive vers la fin du débat, parce qu'il va falloir respecter l'horaire, est-ce que c'est quelque chose de durable ? C'est-à-dire, je parlais à l'ouverture de ce débat de l'édition électronique. Est-ce que la micro-édition, c'est un moyen de faire survivre un peu l'objet livre, ou est-ce que ça risque de se fondre un jour là-dedans ? Voilà la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est utile ou pas ? C'est-à-dire, aujourd'hui, ça permet sans doute à plus de monde d'être publié. Est-ce que ça permet à plus de lecteurs d'aborder les livres ?
Moi, ça me casse les noix.
C'est pas antinomique, tout à fait. Oui. Ouais, je suis tout à fait d'accord.
Et ils achètent le fichier numérique parce qu'ils veulent le lire sur la
dans le train ou dans l'avion ou je sais pas. Oui. Puis même pour l'éditeur, c'est complémentaire aussi.
Ouais, ouais, c'est complémentaire. Moi, je le fais pas trop, mais...
Attendez. Vas-y.
Pardon. On pourrait prendre la défense de la micro-édition et pas simplement avec des débutants ou des rééditions, etc. Je vois par exemple, j'envisageais, je ne sais pas si ça pourra se faire, une intégrale des nouvelles de Robert Young. Robert Young qui a fait, les grandes heures de galaxie et de fiction. On avait, avec Robert Soubi, on avait fait déjà une première proposition d'une 15 ou 20 premières nouvelles, dont certaines qui sont des petits chefs-d'œuvre. On avait tiré à 10 exemplaires en édition on a envoyé un certain nombre d'éditeurs, connus, dont je ne donnerai pas les noms. Toutes les réponses, alors soit il n'y en a pas eu, soit elles étaient négatives. Donc à partir de là, je veux dire que si on peut, si on peut arriver à
faire. Oui, mais ça voudrait dire que la micro-édition, c'est un canot de sauvetage.
Non, c'est pas ce que je veux dire, mais heureusement qu'il y a des
eux qui vont être intéressés par un projet comme ça.
Ils sont capables de se prendre sur des petits chefs-d'œuvre, alors que des grands éditeurs, ah ouais, mais on sait pas trop, etc. Enfin voilà.
Vraiment, tu voulais parler. Vraiment.
Je voulais rappeler la question du début, et je pense que la réponse nous saute aux yeux. La question du début, c'était les petits éditeurs, complément ou concurrent. Bon, la réponse, c'est complément. C'est ce qui a été répondu jusqu'à maintenant.
C'est bien plus compliqué que ça.
Non, mais je suis sûr que cette question-là.
Vas-y.
Il est évident que la micro-édition est complémentaire de l'édition, on va dire, diffusée nationalement, si on peut dire que la différence est à peu près là, parce que ça permet d'autres projets, parce que ça permet à des auteurs qui, de trouver aussi leur place. En même temps, c'est aussi de la place en librairie, parce que les tables ne sont pas extensibles. Et puis,
non, mais on n'y est pas, hein, t'inquiète pas.
Les libraires s'indexent aussi sur les nouveaux ventes. Quelqu'un qui a fait 3 livres en micro-édition, ce sera parfois, pour un éditeur diffusé, compliqué de le prendre, parce qu'il dit, bah, ça a réussi, il a vendu 300 exemplaires en micro-édition, en petite édition, de ses 3 premiers ventes. Est-ce que les libraires vont se fixer, vont avoir la capacité de dire il a vendu que 300 exemplaires, mais en micro-édition, donc il peut faire plus? Ou est-ce qu'ils vont, garder ce seuil?
Mais ils ne vont pas forcément avoir l'information.
Donc ils ne vont pas avoir.
En fait,
la réalité, elle est vachement plus complexe que ça. C'est, évidemment, on a envie de dire que c'est complémentaire. Évidemment, on a envie de dire que, au contraire. Et puis la réponse, elle est même plus simple. C'est pas complémentaire. Il y a des gens, ils ont envie d'éditer des livres. Personne ne peut commencer à dire ah ben non, comprenez, il y a déjà 3 livres.
Moi, c'est plus là-dessus que je serais d'accord.
Mais les imbrications, mais pas d'angélisme. Les imbrications sont bien plus complexes. C'est pas parce qu'on commence en micro-édition que c'est forcément un bon marchepied pour aller en.
Ouais.
On n'a pas forcément besoin du passé. En même temps, c'est parfois très bien pour faire vivre des projets qui n'auraient pas trouvé leur place ailleurs. Et c'est très bien comme ça. La réalité, elle est compliquée et complexe.
Le nombre de livres optimum, il est déjà meilleur que de voir entre eux. Client qui va les acheter ou pas.
Mais on peut pas dire aux petits éditeurs arrêtez de publier parce que ça prend la chasse.
Mais non.
Non, on ne peut pas.
Voilà. Eh bien, le gong a sonné.